Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Vous en avez l'habitude depuis le début de l'année. On est ensemble tous les matins entre 9h et 10h pendant une heure pour analyser une actualité avec nos invités. Pendant toute la durée du mois d'octobre, c'est Octobre Rose, un mois dédié à la sensibilisation du cancer du sein. Et c'est justement le sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Fleur Delande, vous êtes directrice de la communication à l'Oncopole. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et juste à côté de vous, le docteur Eva Jouve, gynécologue de formation et chirurgien sénologue, c'est-à-dire spécialiste du cancer du sein. Bonjour à vous.
Bonjour.
Est-ce que, Fleur Delande, déjà, vous pouvez nous resituer, nous réexpliquer ce que c'est l'Oncopole de Toulouse?
Oui, bien évidemment. Donc pour les Toulousains, l'Oncopole de Toulouse, juste d'un point de vue géographique, se trouve donc route d'Espagne, au pied du nouveau téléphérique Téléo. Et l'Oncopole existe et est sur place depuis 8 ans aujourd'hui. Ça fait 8 ans que l'Oncopole se trouve à cet endroit. L'Oncopole qui réunit plus de 2000 experts spécialisés dans le domaine du cancer. Et quand on dit experts, ça regroupe plusieurs acteurs de prise en charge et de soins. Il y a aussi bien des soignants, des infirmières, des médecins. Il y a à peu près 160 médecins qui travaillent à l'Oncopole. Et il y a aussi des équipes de chercheurs sur place. Et les missions de l'Oncopole sont triples. La première, c'est de soigner. La deuxième, c'est de chercher, donc d'essayer de trouver des nouveaux traitements. Mmh. Et la dernière, d'enseigner, puisqu'on accueille aussi des internes en médecine. Donc on a aussi un rôle de formation. Voilà, donc c'est un lieu dans lequel on soigne effectivement des patients atteints d'un cancer. En moyenne, pour vous donner un chiffre, on traite plus de 10 000 nouveaux patients à l'Oncopole.
Les patients viennent uniquement de Toulouse ou de toute la France, toute la région?
Les patients viennent de toute la région ex-Midi-Pyrénées. Donc on est un centre de recours. Donc on a effectivement des patients présents sur Toulouse, mais pas que. Et on pourra peut-être détailler un peu plus tard, mais on a aussi voilà, des collaborations avec plusieurs centres hospitaliers aux alentours de Toulouse. Voilà.
Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la sensibilisation autour du cancer du sein. Docteur Eva Jouve, est-ce qu'on peut faire déjà un état des lieux avec des chiffres?
Oui, alors en effet, toute cette équipe dont a parlé Fleur, toutes ces équipes sont là pour s'occuper d'environ, à l'Oncopole, 1800 patientes par an. Donc sur cette maladie qui est le cancer le plus fréquent chez la femme, vous savez qu'on a évoqué des chiffres jusqu'à quasiment 60 000 patientes par an touchées par le cancer. Lorsqu'il est découvert précocement, on arrive à obtenir des bons taux de guérison, mais malheureusement, sur des formes plus avancées ou très agressives, le taux de mortalité n'est pas négligeable, avec en France plus de 12 000 décès par an du cancer du sein. D'où notre présence aujourd'hui pour sensibiliser toutes les femmes au dépistage du cancer du sein, à la prise en charge précoce de ce cancer. Sur l'Oncopole, les équipes sont vraiment diversifiées. Sur la clinique, avec tous les acteurs présents sur place, la chirurgie, l'oncologie médicale, la radiothérapie. Mais on a besoin d'emblée aussi d'experts dès le diagnostic en radiologie, en médecine nucléaire. Et tout ceci en collaboration au quotidien avec les équipes de recherche. Donc c'est vraiment un endroit très confortable pour moi pour travailler et pour proposer le meilleur aux patientes.
Vous avez l'impression que ce problème du cancer du sein, il est pris au sérieux?
Alors, je crois qu'on peut dire oui, puisque une campagne de dépistage, c'est une campagne de dépistage nationale. Mmh. Et dès 50 ans, toutes les patientes recevront une lettre à domicile pour venir faire ce dépistage. Donc, je crois que les moyens publics sont mis. On a dans certains départements aussi des appareils de mammographie embarqués pour que le plus de patientes adhèrent à cette campagne de dépistage. Donc pour moi, oui, les moyens sont là, puisque c'est un vrai problème de santé publique. Et je le répète, pris précocement, grâce à la mammographie de dépistage, on aura un plus fort taux de guérison. Que si la patiente consulte tardivement.
Vous disiez dépistage à partir de 50 ans, c'est pas trop tard?
Alors, non, puisque la moyenne d'âge au diagnostic est de 63 ans. Mmh. Donc, justement, le dépistage est en France de 50 à 74 ans, comme d'ailleurs dans les autres pays qui font du dépistage en Europe ou aux États-Unis, parce que, comme cela, on cible tout à fait la population à risque. Et là, on parle du dépistage organisé, qui consistera en une mammographie tous les 2 ans. La particularité de ce dépistage organisé, c'est qu'aussi il y a une double lecture des mammographies afin vraiment de repérer les plus petites lésions, donc ce qui est très intéressant dans le dispositif. Mais bien sûr, il y a d'autres moyens de dépistage. Il y a des dépistages un peu plus précoces, c'est ce que vous évoquiez. Et là, ce sera la gynécologue, la sage-femme, éventuellement le médecin généraliste, qui, selon les antécédents de la patiente, antécédents familiaux, selon l'examen clinique qu'ils vont mener, pourront indiquer une mammographie plus précocement. Mais on reste vigilant à toute apparition de signes cliniques chez une femme dès 20 ans, mais on sera vigilant à la réalisation de mammographies trop précoces et surtout trop répétées. Enfin, il y a des surveillances, des dépistages personnalisés très poussés pour les femmes à haut risque, c'est les femmes à risque génétique. Mais là, c'est un champ très particulier et qui concerne pour le cancer du sein 5 à 10% des patientes. Donc, c'est vraiment des patientes qui sont tout à fait ciblées. Mais si dans votre famille, il y a, on va dire, plus de 3-4 cancers du sein, et notamment chez des femmes jeunes, il est très intéressant de relever cette information auprès de votre gynécologue ou de votre médecin traitant pour réfléchir à l'hypothèse d'une consultation en oncogénétique.
Justement, le profil des 1800 patientes que vous accueillez chaque année à l'Oncopole?
Oui, alors...
C'est 2008.
C'est 2008, 2008, pardon. 2800 patients par an, leur
alors,
profil.
Essentiellement, fort heureusement, des cancers de forme localisée, sur lesquels nous allons pouvoir mettre en place des traitements qui sont réévalués constamment pour être le moins agressif possible et le plus efficace possible. Donc, on est sur des prises en charge chirurgicales généralement assez simples, en chirurgie ambulatoire. Sur le parcours le plus fréquent, une radiothérapie adjuvante qui va durer 5 semaines. Donc on va dire qu'en 2 mois et demi, la patiente aura effectué le traitement de son cancer, suivi par la suite de l'hormonothérapie adjuvante. Mais bien sûr, on a des parcours plus complexes si on identifie une maladie plus agressive. Mais je crois qu'on va y revenir ou... J'ai oublié le sujet de la question.
Je vous demandais, vous me disiez donc que le dépistage avait lieu à 50 ans, mais vous avez un terme de profil de femmes qui sont, qui sont présentes.
Pour l'âge Alors, en effet, nous recevons essentiellement des patientes plutôt aux alentours de 60 ans, mais en tant que centre régional quand même de référence sur la région, la plupart des patientes jeunes et très jeunes sont adressés sur l'établissement, ce qui nous permet également de leur faire bénéficier des soins de support et de toute l'organisation que nous avons mis en place autour, notamment pour les femmes jeunes avec des consultations d'oncofertilité qui sont systématiquement proposées et très rapidement dès le début de la prise en charge, un accompagnement par nos infirmières coordinatrices et tous les soins de support que seront les psychologues, éventuellement les oncosexologues, les sophrologues, les socio-esthéticiennes, tout sera proposé pour ces femmes, jeunes ou moins jeunes, pour qui arrive cet événement qui va quand même être une fracture dans leur vie, un événement très marquant dans la vie.
C'est aussi pour ça que le mois Octobre Rose a été créé. Il consiste en quoi, ce mois Octobre Rose ?
Ce mois Octobre Rose, il a effectivement une importance majeure. Vous avez peut-être remarqué sur nos vestes,
oui,
nous avons notre petit ruban rose.
C'était l'une de mes questions, mais voilà, vous l'avez dit.
Exactement. Ce ruban rose a été créé il y a plusieurs années dans l'objectif, effectivement, de rappeler l'importance du dépistage. C'est la mission première de de ce petit signe qu'on porte tout le mois d'octobre. Il est important, effectivement, qu'il y ait ce rappel systématique, effectivement, de l'importance du dépistage. Au-delà du dépistage et de ce que vient de dire le docteur Eva Jouve, il est important aussi de rappeler qu'on n'est pas obligé d'attendre le dépistage, mais qu'il est quand même très important pour une femme de consulter un gynécologue, un médecin ou une sage-femme une fois par an pour faire un suivi, effectivement, gynécologique. Donc ça, c'était une parenthèse. Et Octobre Rose, ça permet effectivement à tous les acteurs de santé, aussi bien associatifs que nous, en tant que centre hospitalier de référence, de mener aussi des actions effectivement de sensibilisation. Donc dépistage, rappeler effectivement qu'il y a des traitements qui sont de plus en plus personnalisés ou un accompagnement de plus en plus personnalisé. Et rappeler aussi que la recherche contre le cancer du sein avance. Et la force de l'Oncopole, c'est qu'effectivement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a la chance d'avoir toutes ces équipes nous réunies sur un seul et même site, ce qui favorise effectivement les collaborations, qui permet aux cliniciens de travailler effectivement avec les acteurs de la recherche plutôt fondamentale. Et le fait d'avoir tous ces acteurs effectivement concentrés sur un même site permet effectivement d'avoir des avancées un peu plus, de développer des nouveaux traitements ou de faire avancer effectivement les traitements contre le cancer du sein. Donc ça permet aussi voilà, de rappeler que la recherche avance, mais qu'il faut aussi la financer. Donc c'est aussi pour ça que cette année, dans le cadre d'Octobre Rose, l'Oncopole aussi a voulu rappeler aux patients, aux personnes qui effectivement viennent à l'Oncopole, qu'il est possible aussi de financer la recherche directement à l'Oncopole. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, mais cette année, on a déployé une campagne assez importante sur Toulouse, à l'arrière des bus, dans le réseau Tisséo, puisqu'on a deux partenaires majeurs cette année pour cette campagne. On a Tisséo Voyageurs et le Mine, le grand marché de Toulouse. Donc Maglone Pontier a accepté à nouveau d'être notre marraine Octobre Rose pour cette année. Et Tisséo a également voulu soutenir notre campagne en relayant nos messages liés au fait que vous pouvez, pour accélérer la recherche, c'est à côté. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez donner directement à l'Oncopole.
Je crois que cette campagne Octobre Rose, c'est aussi l'occasion pour les patients, les femmes, les familles, d'aborder ce sujet qui est parfois délicat.
Pourquoi c'est délicat d'en parler ?
Alors, déjà, on est sur un organe assez intime. C'est une maladie qui fait peur. La réaction de l'entourage peut être complexe initialement. Donc je crois que c'est Octobre Rose, ça permet aussi de dire bah, je suis peut-être en traitement, mais je suis là, je vais bien et je peux continuer les activités que je faisais avec vous quand on n'avait pas encore diagnostiqué le cancer. Ou même pour les patientes qui ont des traitements longs, Le message que je voudrais faire passer, c'est que ça peut être difficile pour l'entourage de savoir se positionner par rapport à ça, mais en fait, il ne faut pas en avoir peur. Peut-être que la patiente en parlera, peut-être qu'elle n'en parlera pas, mais elle a sans doute besoin de votre présence, peut-être d'un accompagnement un jour sur une consultation. Et voilà, Octobre Rose, c'est aussi l'occasion d'en parler peut-être en famille. C'est délicat peut-être de dire à sa maman, est-ce que tu es allée faire ta mammographie dépistage ? Mais là, en passant devant un stand Octobre Rose, on peut peut-être le suggérer, peut-être un petit peu plus facile. Voilà, la communication comme on fait ce soir et au sein des familles, des milieux amicaux, c'est très important.
Et toujours avec ce symbole, parce que souvent, on ne sait pas, comme disait le docteur Eva Jouve, on ne sait pas toujours comment aborder ce sujet-là. Donc même si l'objectif premier de ce petit ruban rose est de rappeler l'importance du dépistage, ce qu'on dit aussi souvent à nos partenaires, c'est que de le porter peut être aussi un signe un peu de reconnaissance et de soutien pour les femmes, mais ça peut permettre aussi à des hommes qui le portent, par exemple tous les agents Tisséo le portent depuis le début du mois d'octobre, et le porteront, enfin vont le porter tout au long du mois d'octobre, et on leur avait expliqué que c'était aussi un moyen pour eux de porter un petit témoignage ou de dire pensons à ces femmes qui effectivement soit viennent juste d'être diagnostiquées, soit effectivement vivent avec cette maladie-là depuis quelques temps. Donc c'est un peu une petite reconnaissance pour elles, c'est pour leur signifier ça, et tout le monde est acteur, voilà, les proches peuvent effectivement jouer un rôle, ne serait-ce qu'en portant ce petit ruban.
Et également dans le milieu professionnel, puisque il y a des entreprises qui ont beaucoup avancé sur le sujet. Bien sûr, une femme n'est pas obligée de donner le diagnostic qui justifie de son arrêt de travail, mais si elle le souhaite et si elle discute avec ses collaborateurs. C'est important que dans le milieu professionnel, quelqu'un en traitement, après une période d'arrêt plus ou moins longue, puisse retrouver sa place, peut-être différente, des objectifs peut-être différents, mais voilà, c'est un sujet qui s'aborde de manière sociétale.
Toujours dans cet objectif de sensibilisation autour du cancer du sein, vous avez organisé mercredi dernier une journée à l'Oncopole. Fleur de Lampe, parlez-nous-en.
Alors oui, c'est une journée qui existe depuis plusieurs années à l'Oncopole. L'objectif est effectivement de dédier une journée aux patientes qui sont suivies par nos équipes. L'année dernière, elle n'a pas pu avoir lieu à cause du Covid. Donc c'était important pour nous de pouvoir la relancer cette année. On n'était pas certains jusqu'à l'été, mais on était très contents effectivement de pouvoir la relancer. Cette année, nous avons pu accueillir 150 patientes tout au long de la journée. Cette journée était découpée en deux temps forts. Le matin était consacré, enfin dès le matin, il y avait des ateliers auxquels pouvaient assister les patients, des ateliers aussi bien sur de sport, de relaxation, de maquillage. Voilà, il y avait différents, on a toujours énormément de partenaires. C'est important aussi de le rappeler, c'est que toutes les actions qu'on mène effectivement tout au long du mois d'octobre peuvent avoir lieu aussi grâce à tous les partenaires qui nous soutiennent pour pouvoir effectivement organiser cette journée ou faire des campagnes. Et donc sur cette journée, elles ont pu effectivement participer à des ateliers. Tout était gratuit mais sur inscription pour pouvoir organiser au mieux cette journée et leur permettre effectivement de passer du temps. Et l'après-midi, c'était une série de conférences qui étaient organisées et animées par des professionnels de l'Oncopole. L'idée étant de leur apporter un peu une petite bulle de bien-être ou de réconfort dans ce lieu dans lequel elles viennent effectivement en général pour être soignées. C'est l'objectif de cette journée. Et l'année dernière, on n'avait effectivement pas pu l'organiser à cause du Covid, mais nous avons lancé une web-série l'année dernière à cette occasion. L'idée, c'était, on ne peut pas les recevoir, mais essayons de leur apporter, en tout cas chez elles, à travers un outil digital, un petit moment de bien-être, un petit moment de réconfort. Et on pourra en reparler peut-être un peu plus en détail après, mais voilà, c'est aussi l'objectif de cette web-série qui s'appelle Le chemin d'Émilie, qui est disponible sur YouTube et qui aborde différents sujets.
Et qui s'est poursuivie cette année. Une grande aventure qui débute.
Justement, vous le disiez, 150 femmes pour cette journée du 12 octobre à l'Oncopole. C'est aussi important pour elles d'échanger avec d'autres femmes atteintes de la même maladie.
Oui, et puis dans un moment plutôt convivial et gay, les barrières tombent aussi un petit peu. Les professionnels sont à côté des patientes, mais et pas derrière un bureau. Donc c'est un moment d'échange très important pour l'établissement, je pense, des deux côtés, du côté des patientes et des soignants. Et pour aussi tous les acteurs de la recherche... Qui sont sur l'établissement, voilà, on va tous dans le même sens.
Et c'est vrai que ça permet effectivement au personnel qui n'est peut-être pas, qui travaille en tout cas peut-être un peu plus en coulisses de l'Oncopole, effectivement, de voir les patientes, de passer un peu de temps avec elles. On aimerait pouvoir accueillir plus de patientes lors de ces journées. On a effectivement quelques contraintes en termes d'accueil et l'idée effectivement c'est qu'on ne puisse pas déranger non plus les patients qui viennent eux consulter pour d'autres sujets, dans d'autres spécialités.
Vous parliez du Covid tout à l'heure. Le Covid, il a fait mal dans la sensibilisation autour du cancer du sein parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des retards par rapport à ça en termes de prise en charge.
C'est une question difficile sur l'évaluation de l'impact Covid sur le dépistage. Je crois qu'il y a, c'est le sujet un petit peu aujourd'hui. Il y a des patientes qui sont réticentes à aller faire cet examen. Pendant la période Covid, il est possible qu'elle ne l'ait pas du tout fait, le dépistage. Il a été arrêté pendant 2 mois, mais récupéré par la suite. C'est vraiment à ces patientes-là aujourd'hui que j'aimerais dire, n'attendez pas d'avoir un signe clinique qui pourrait être donc une masse dans le sein, qui pourrait être un écoulement, une rougeur du sein, un gonflement du sein, pour consulter. Je le répète, une maladie de moins d'un centimètre prise en charge très précocement aura un bon taux de guérison. C'est ce que permet de découvrir ces radiographies du sein. Et si vous avez déjà senti depuis quelques semaines, voire quelques mois, une masse dans le sein, que vous comprenez qu'il se passe quelque chose d'anormal, eh bien, sachez qu'il n'y aura pas de jugement, qu'il ne faut pas tarder à venir consulter au plus tôt où vous réalisez qu'il le faut. Je constate chez les patientes que je vois en consultation parfois un retard de prise en charge parce que la patiente s'occupe de beaucoup de monde autour d'elle. Dans sa famille, ça peut être les aînés, ça peut être le conjoint, ça peut être les enfants. Il faut aussi s'occuper de soi.
Il faut s'écouter.
Il faut être vigilant à son corps. Et d'autant plus si on veut aider les autres, on les aidera d'autant mieux si on est soi-même bien dans son corps, globalement. Donc, je crois aussi qu'il y a une campagne sur la maladie cardiovasculaire chez les femmes qui est sous-diagnostiquée parce que la femme consulte tardivement. Et je crois que c'est un petit peu la même problématique. Donc, les femmes, n'hésitez pas à passer, à penser à vous, à vous mettre un peu en avant dans la famille. Et la mammographie de dépistage, ça va prendre peut-être 1h30 dans votre temps sur une journée. Allez-y, vraiment, allez-y, c'est très important.
Je vous propose qu'on fasse une première petite pause musicale. On revient dans quelques instants. On écoute Au Café des Délices de Patrick Bruel.
Tes souvenirs se voilent, ça fait comme une éclipse, une nuit pleine d'étoiles sur le port de Tunis. Le vent de l'éventail de ton grand-père assis au café des délices. Tes souvenirs se voilent, tu vois passer le tram et la blancheur des voiles des femmes tenant un fils. Et l'odeur du jasmin qu'il tenait dans ses mains au café des délices. Yalil, yalil, Habibi, yalil, 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 Habibi, yalil, 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 Habibi, yalil, 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 yalil. Tes souvenirs se voilent, tu la revois la fille, le baiser qui fait mal à Port El Kantaoui. Les premiers mots d'amour sur des chansons velours, Habibi, Habibi. Tes souvenirs se voilent, tu les aimais ces fruits, les noyaux d'abricots, pour toi c'était des billes. Et les soirées de fête qu'on faisait dans nos têtes aux plages d'Amamet. Yalil, yalil, Habibi, yalil, 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 Habibi, yalil, 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 Habibi, yalil, 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 Habibi, yalil, yalil. À l'avant du bateau et ce quai qui s'éloigne vers un monde nouveau. Une vie qui s'arrête pour un jour qui commence, c'est peut-être une chance. Yalil, yalil, tu n'oublieras pas. Yalil, yalil, ces parfums d'autrefois. Yalil, yalil, tu n'oublieras pas. Yalil, yalil, même si tu t'en vas. Yalil, yalil, Habibi, yalil. Yalil, yalil, Habibi, yalil. Des voix, des femmes.
Vivante Église, Timothée Rouvière.
Et avec Fleur Delampe, directrice de la communication à l'Oncopole à Toulouse, et le docteur Eva Jouve, gynécologue de formation et chirurgien sénologue, c'est-à-dire spécialiste du cancer du sein, là aussi à l'Oncopole. Juste avant la pause musicale, on parlait de cette petite web-série mise en place par l'Oncopole. Cette année, il porte sur l'annonce et sur le diagnostic du cancer du sein, c'est ça ?
C'est exactement ça. Donc c'est une web-série qui s'appelle « Le chemin d'Émilie ». Osons parler du cancer du sein. Donc on a effectivement pris un angle un peu fort, parce que comme vous le disiez, le docteur Eva Jouve, c'est un sujet qui peut rester encore un peu tabou dans les familles, dans les proches ou même dans l'entreprise. Et donc on avait voulu déjà l'année dernière aborder effectivement le sujet de l'après-cancer, mais je pourrais y revenir après. Et cette année, en fait, on l'a fait un peu à la Star Wars, on a repris effectivement le début cette année. On s'est dit que c'était important aussi de reparler de cette période, de l'annonce, du diagnostic et de la mise en place des traitements. Donc cette année, la nouvelle saison est composée de 3 épisodes. Donc on a repris la même équipe que l'année dernière, on a travaillé avec l'agence Pinkanova, c'est une production 100% toulousaine, c'est important de le rappeler aussi, parce qu'on a des acteurs toulousains, ça a été tourné à Toulouse, donc je vous invite tous à la regarder si vous ne l'avez pas encore vue, elle est disponible sur la chaîne YouTube de l'Oncopole, et donc ça s'appelle Le Chemin d'Émilie. Et donc cette année, voilà, on a voulu aborder ces 3 sujets-là pour montrer effectivement l'importance de cette période, le choc que ça peut être effectivement pour les femmes qui apprennent qu'elles sont atteintes d'un cancer du sein. On en profite aussi pour rappeler le rôle des proches qui est joué à toutes les étapes. Le docteur Eva Jouve le disait, c'est important effectivement de se faire accompagner, de pouvoir en parler. Et cette web-série n'a pas l'objectif de tout solutionner, mais au moins elle apporte un petit peu de légèreté, pas sur le sujet même de la malade, de la patiente ou de sa maladie, mais plutôt de la légèreté à travers des personnages qui sont autour d'elle et qui vont un peu poser un peu les questions que tout le monde se pose, mais n'ose pas les poser de peur de mettre les pieds dans le plat. Et on a des acteurs, des petites voix comme ça à côté qui mettent les pieds dans le plat. Donc ça permet effectivement de dédramatiser un petit peu effectivement le quotidien des patientes, mais bien évidemment, même si ça apporte un peu de sourire et un peu de légèreté, on veut dédramatiser le sujet, mais on ne tourne pas du tout en dérision la maladie ni ce que peuvent vivre les patientes.
On le disait, l'apport, le soutien de la famille est extrêmement important. Si vous deviez vous adresser aux auditeurs qui connaissent cette situation ou qui ont un proche qui est atteint par le cancer du sein, comment réagir? Comment avoir la juste et la bonne réaction?
En tant qu'aidant, vous voulez dire, dans l'entourage? La présence. La présence, l'écoute. Après, vous ne serez pas le médecin, vous ne serez pas le soignant. Ça sera le rôle des interlocuteurs professionnels. Mais la présence, l'écoute, le savoir prendre le temps, parce qu'il y a un temps psychologique pour accueillir ce type d'annonce, l'annonce du cancer du sein. Donc, ne pas s'inquiéter s'il y a des jours difficiles après l'annonce, quelques semaines. Si par contre la situation se poursuit de quelqu'un qui pleure beaucoup, qui est très déprimé, alors qu'on est un peu plus avancé déjà dans la phase thérapeutique, c'est sans doute important à ce moment-là de consulter des spécialistes psychologues ou en passant par le médecin généraliste qui est souvent très aidant. D'ailleurs, les psychologues sont aussi là pour les aidants parce que ça peut être difficile aussi à porter. Il y a une question qui est souvent abordée aussi, c'est l'annonce auprès des enfants. Peu de psychologues reçoivent les enfants, mais en revanche, ils conseillent les parents et les aidants pour s'approprier des mots de langage pour discuter avec les enfants, quel que soit l'âge. Et l'idée est bien sûr de, je pense avec les enfants ou avec l'entourage, d'être dans la relation de confiance. J'ai l'habitude de dire qu'il ne faut pas que cette maladie... mettre une distance en fait dans la famille. Je crois que par exemple si on parle de l'enfant a besoin de savoir que cette relation de confiance est très très forte, que si un jour il lui arrive quelque chose de grave, il peut en parler à sa famille. Et l'enfant étonnamment n'a pas peur des traitements. Voilà. Et je pense que les adultes n'ont pas à avoir peur des traitements ou de tout ce qui sera mis en place pour que la patiente soit en meilleure santé possible, le plus longtemps possible. Et voilà, maintenant que la phase Covid est passée, en effet, les accompagnants peuvent venir avec les patientes Bon, en réalité, on a fait quelques petites dérogations parce que faire des annonces à une patiente qui est toute seule, c'était quasiment impossible. Mmh. Donc, on a fait quelques petites dérogations pendant le Covid pour que les patients ne soient pas toutes seules. Mmh. Donc, en effet, ce dont on est en train de parler, la consultation d'annonce et la consultation où le médecin cancérologue, donc qui peut être oncologue ou chirurgien, va mieux expliquer ce diagnostic de cancer du sein. Parce que là, on emploie un mot très généraliste, mais il y a des maladies très différentes. Mmh. Essentiellement, retenir la différence entre un stade localisé, hein, j'en ai déjà parlé.
Donc, c'est-à-dire que le cancer du sein est uniquement centré.
Voilà. Mmh. Pour l'instant, se développe au niveau du sein. Alors, on considère que l'atteinte ganglionnaire, les ganglions de la région du sein au niveau de l'aisselle font quand même partie de la région, mais c'est déjà des cellules qui ont commencé à migrer dans le corps, hein, ce qui en fait leur dangerosité. Et le stade plus avancé de maladie avec des cellules de ce cancer qui auront pu se localiser sur des organes à distance et en faire une maladie plus complexe à soigner. Donc cette consultation d'annonce permet de repositionner donc, le champ dans lequel on se trouve d'une maladie localisée, loco-régionalement localisée ou avancée. Et après, il y a une deuxième notion qui est très très importante pour le praticien et qu'on explique à la patiente, parce qu'aujourd'hui on pense que plus les patients comprennent la maladie et le traitement, plus on adhère à ce type de traitement, c'est donc la carte d'identité de la tumeur. Donc, on parlera de cancer quand on aura, après la mammographie, fait une biopsie de la lésion. Et c'est cette biopsie qui va nous donner le diagnostic de cancer. Une fois que le cancer est établi, on a besoin de critères plus fins. Vous avez déjà entendu parler des récepteurs hormonaux, récepteurs œstrogènes, progestérone. Vous avez peut-être entendu parler d'un autre récepteur, peu importe, qui s'appelle HER2. Et là, c'est trois récepteurs très importants à la surface des cellules tumorales qui sont déjà pour nous des premiers critères de la carte d'identité de cette tumeur. Et on va du coup décliner trois grands types de maladies. La maladie qui exprime les récepteurs hormonaux, la maladie qui exprime ce récepteur HER2 et la maladie qui n'exprime aucun de ces récepteurs. Et on l'entend beaucoup dans les journaux, c'est cette maladie qu'on appelle triple négative.
Pour bien comprendre ensuite et passer sur la partie traitement, parce que c'est vrai que le temps passe vite et il faut parler de tout, c'est des traitements qui peuvent être très longs, c'est ça?
Oui, alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, on essaie de désescalader dans les thérapeutiques hein, pour être efficace, mais on a aussi, grâce à ces avancées dans les cartes d'identité, dans les signatures génomiques, on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, besoin d'escalader dans certains cas de figure, donc même sur une maladie précoce. On va avoir des temps de traitement qui peuvent être d'un an, voire un petit peu plus, pour se dire qu'on va apporter le maximum de chances de guérison à la patiente. Et aujourd'hui, la consultation d'annonce, la première consultation se fait souvent avec un chirurgien, mais la discussion médicale sera toujours combinée avec un oncologue médical, parce qu'aujourd'hui, dans cette escalade, si je peux dire thérapeutique, mais afin de personnaliser le traitement, on aura de plus en plus besoin de commencer éventuellement par un traitement médical qu'on appelle la chimiothérapie. Donc si je fais trois grandes lignes aussi, deux petites lignes sur les traitements, on va prendre en charge la maladie par chirurgie pour l'enlever.
D'accord.
On va utiliser des traitements pour éviter que cette maladie revienne. Mmh. La radiothérapie, qui agit également localement, évite la récidive locale. Mmh. Et les traitements qu'on appelle systémiques, c'est-à-dire des traitements qui passent partout dans le corps, éviteront une récidive à distance dans le corps, une récidive métastatique. Et dans ces traitements systémiques, je pense que la plupart ont entendu parler des chimiothérapies, hein, médicaments qu'on connaît depuis longtemps, les hormonothérapies, mais aujourd'hui, beaucoup d'avancées thérapeutiques sur des anticorps qui ciblent directement ce fameux récepteur, par exemple HER2, et maintenant des anticorps drogue conjugués, c'est-à-dire qu'on va associer à l'anticorps une dose de chimiothérapie qui va donc entrer directement dans la cellule cible, donc avec moins d'effets secondaires qu'une chimiothérapie classique. On entend aussi parler, parce qu'il y a beaucoup de révolutions pour nous, hein, on est très 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 contents de toutes ces avancées thérapeutiques, des immunothérapies, notamment pour les formes très agressives du triple négatif, tant en phase avancée qu'en phase localisée. Et encore, sans doute, plein d'autres surprises qui nous attendent positives.
Donc il y a beaucoup d'avancées, ça on le voit. On entend souvent dire que lors de la prise en charge des cancers, pas forcément le cancer du sein, mais tous les types de cancers, le mental joue beaucoup. Est-ce que dans une pathologie comme le cancer du sein, le mental joue beaucoup aussi?
Alors moi, je me méfie un petit peu de cette notion parce que quelque part, ça voudrait dire si vous êtes déprimé, vous n'allez pas bien, guérir. Alors bon, on n'a pas prouvé que le stress générait le cancer du sein. On n'a pas prouvé que la dépression, les dépressifs guérissaient moins du cancer du sein, d'accord ? Moi, dans la rencontre que j'ai avec les patientes, et comme je disais tout à l'heure, cette phase tout à fait adaptée psychologiquement de déprime post-annonce, il faut savoir la respecter et ne pas s'en culpabiliser, parce que souvent, les patientes se culpabilisent déjà du diagnostic. Elles ne vont pas se culpabiliser de leurs émotions vis-à-vis du diagnostic. Ça devient très, très lourd pour elles à porter, tout ça. Tout ce qui peut entourer la patiente pour l'aider à sortir des traitements, et quand même, on peut le dire, de l'agression qu'apportent les traitements, pour faire en sorte que son mental aille mieux. Donc, j'aime bien dire aux patientes et à leurs accompagnants, mais si elle aime aller au ciné, emmenez-la au ciné, au resto, offrez-lui un massage, si
lui
c'est
faire
ce qu'elle
penser
aime.
À autre chose.
Se retourner, on n'est pas du tout fermé sur des médecines parallèles à partir du moment où on nous en parle, hein, pour si c'est aidant, comme une séance d'acupuncture, pour se déstresser de tout ce stress environnant, ça c'est positif. Mais il n'y a pas de culpabilité à avoir sur les émotions qu'on ressent.
Je vous propose qu'on fasse une deuxième petite pause musicale. On revient dans moins de 4 minutes et on parlera de l'après-cancer du sein qui est aussi très important. On écoute Les choses simples de Jennifer et Slimane.
Se cachent les grands hommes. Emmène-moi en bas.
présence à Ax-les-Thermes, 92.7.
Vivante Église, Timothée Rouvière.
Et je suis toujours en présence du docteur Eva Jouve, gynécologue de formation et chirurgien sénologue, c'est-à-dire spécialiste du cancer du sein, et Fleur Delande, directrice de la communication à l'Oncopole. Au début de la deuxième partie, on parlait de cette super web-série. J'ai regardé les épisodes pendant la pause musicale, on va rien cacher aux auditeurs, web-série qui est très bien faite. La web-série de l'an dernier, elle parlait de l'après-cancer du sein. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. On a parlé de l'annonce, on a parlé des traitements, il y a aussi l'après.
Oui, exactement. L'après-cancer était une période que l'on a voulu aborder l'année dernière. Ce que je vous disais, avec un ton léger, apporter un peu de feel-good, un peu de bien-être à distance aux patientes. Ce sont des épisodes assez courts hein, qui durent entre 4 et 5 minutes, donc vraiment n'hésitez pas à les regarder. L'histoire commence sur une rencontre, c'est une histoire d'une rencontre d'une jeune femme qui apprend qu'elle est en rémission de son cancer du sein et elle tombe amoureuse. Donc on joue sur la comédie romantique pour apporter justement un peu de légèreté. Et tout au long de son chemin, vu que c'est le nom de la série, elle va rencontrer effectivement des proches qui vont lui poser des questions justement sur cette phase. On a voulu l'aborder parce que pour les proches, quand on leur dit, quand les patientes leur disent qu'elles sont en rémission, et c'est ce qui est dit dans la web-série, ils disent « Ah mais c'est génial, t'es guérie », ce qui n'est pas du tout le cas. Mmh. Et en fait, l'actrice, la comédienne joue extrêmement bien cette phase, puisqu'elle dit qu'en fait, c'est positif, certes, d'être en rémission, mais pour elle, effectivement, c'est quitter un univers dans lequel elle a été effectivement pendant plusieurs mois. Et les patientes nous disent effectivement que quand ils sont pris en charge, suivis à l'Oncopole, ou même dans d'autres services, ils ont l'impression un peu d'être dans un cocon. Il y a beaucoup de personnes autour des patientes, tout au long du parcours de la maladie, de l'annonce jusqu'à la mise en place des traitements. Et donc, le fait de se retrouver en rémission et de se dire qu'on n'ira plus qu'une fois ou deux fois par an à l'hôpital est quand même à nouveau aussi un choc. Et c'est retrouver sa vie, retrouver ses habitudes d'avant. Et on n'a pas... Voilà, ça peut être une période effectivement un peu... dans lequel on se sent un peu perturbé. Donc, c'est important de dire effectivement qu'il y a des solutions aussi pour continuer à être accompagné, d'en parler à ses proches, de dire qu'il y a des ateliers aussi liés à l'après-cancer, mais peut-être que... Enfin, il y a des solutions aussi qui peuvent être faites, mais là, je laisse la place au docteur pour répondre.
Donc, en effet, dans la phase d'après-cancer, on en parle à la fin de la phase active de traitement, mais les patientes seront pour beaucoup encore sous traitement, j'en parlais tout à l'heure, par exemple, hormonal. On préconise beaucoup l'activité sportive en parallèle afin de mieux supporter les effets secondaires. Pour les autres bénéfices que ça apporte également, il y a beaucoup d'associations et ça, on peut vraiment féliciter toutes ces associations qui sont basées sur du bénévolat sportif en région toulousaine, mais aussi ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de patientes qui développent des projets ailleurs dans la région et on en a encore besoin. Donc, ça peut être... donc, on a entendu parler des Dragon Boat, on a entendu parler de l'escrime, de séances de gymnastique, de course, de rugby. C'est un cheval de bataille pour nous. C'est ce qu'on appelle aussi un moyen de prévention secondaire. Donc, ça permet de diminuer les risques de récidive, l'activité physique régulière. Je rappelle d'ailleurs aussi que c'est un moyen de prévention primaire. Hein. Si on n'a jamais eu de cancer, le fait d'avoir une activité physique régulière, et il faut à nouveau pas culpabiliser chacun, ça peut être aussi l'activité physique, c'est pas forcément du sport, hein. C'est aussi marcher, c'est aussi prendre des escaliers, jardiner, se mouvoir, hein, lutter contre la sédentarité. Bien sûr, si possible, une alimentation varié, équilibré, diminuer si on peut, arrêter sa consommation tabagique et consommation d'alcool.
Et boire beaucoup aussi, j'imagine.
Oui, sans excès non plus. tous ces messages sont très importants dans cette phase d'après-cancer. Et
on a fait le tour.
Oui, je crois qu'on a fait le tour. Sur l'Oncopole, si des patientes souhaitent consulter, on a un numéro dédié pour la pathologie féminine, qui est le 05 31 15 60 61.
Est-ce que vous pouvez nous le répéter, le temps que les auditeurs puissent noter?
Donc, dédié aux pathologies féminines, un numéro à l'Oncopole, le 05 31 15 60 61. Et une adresse mail, saintgynéco@iuct-oncopole.fr.
Très bien, là-dessus, il nous reste, vous voyez le chrono qui tourne, 1 minute 30, docteur Eva Jouve, si on doit retenir quelque chose par rapport au dépistage, parce que ça touche tout le monde, et même les hommes qui nous écoutent peuvent glisser le mot à leur femme.
Peuvent glisser le mot à leur femme. On n'a pas parlé de l'autopalpation, mais très rapidement, chaque patient doit être aussi attentive à son corps, ça on l'avait dit. En se regardant dans la glace, éventuellement en palpant, ça peut être difficile. Donc si on trouve ça difficile, à nouveau, on ne se culpabilise pas. On va voir le médecin traitant, le gynéco ou la sage-femme une fois par an. Dès 50 ans, on va réaliser sa mammographie de dépistage. Et vous avez parlé des hommes. Le cancer du sein peut apparaître chez l'homme. Donc un homme qui sent une masse derrière le mamelon, un ganglion au niveau de l'aisselle, ne doit pas tarder à consulter pour qu'on le prenne en charge précocement.
1% des cancers du sein, donc ça
existe.
Oui,
c'est très faible, peu de personnes le savent, mais ça peut arriver. Voilà.
On l'aborde aussi dans la websérie, je tiens à le dire.
Donc voilà, cette websérie disponible, Le Chemin d'Émilie, sur la chaîne YouTube de l'Oncopole de Toulouse. Merci à toutes les deux d'avoir accepté mon invitation et d'être venues nous sensibiliser autour du cancer du sein. Je vous propose qu'on écoute l'agenda de l'Église dans votre région.
Église Actualité, Timothée Rouvière.
Débutons cette Église Actualité avec le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron qui propose l'atelier Frères et Sœurs sans rivalité par Anne Herbinet. En participant à cet atelier, vous apprendrez à aider les enfants à exprimer leurs sentiments envers les autres, le tout sans faire de tort, être juste sans donner ou encore aider les victimes et les bourreaux. Rendez-vous est donné à 13h45 au 34 avenue Pierre-Auguste Renoir à Jurançon. Information auprès de anneherbinet35@gmail.com. anneherbinet35@gmail.com ou sinon vous pouvez contacter le 06 82 36 07 82 06 82 36 07 82. De son côté, la communauté de l'Emmanuel organise une veillée de prière pour les malades et tous ceux qui souffrent, le tout en présence de prêtres et de la paroisse de la Sainte Famille. Au programme, louanges, enseignements sur la parole de Dieu, adoration du Saint-Sacrement ou encore prière d'intercession. La veillée a lieu vendredi à 19h à l'église Sainte-Bernadette à Pau. Le diocèse d'Albi propose « Au commencement, le ver était dans la pomme ». À travers des scènes du Grande Force, le public est invité à prendre position sur des questions fondamentales du monde d'aujourd'hui. Rendez-vous est donné à la salle multiculturelle de Nérac. Pour conclure, le diocèse d'Albi propose la conférence « Vous serez mes témoins » par Mgr Pierre-Marie Carré. Rendez-vous est donné vendredi à 20h30 à la salle du Pignier et ça se passe à Albi. C'est la fin de cette Église Actualité. Rendez-vous demain pour un nouvel agenda de l'Église dans votre région.
Retrouvez Église Actualité sur le web en tapant www.radioprésence.com.
Et c'est la fin de cette émission. Merci encore une fois à mes deux invités d'avoir répondu positivement à mon invitation. Juste un petit mot par rapport au site internet sur lequel on peut retrouver les actualités de l'Oncopole.
Oui, vous retrouverez les actualités de l'Oncopole sur le site iuct-oncopole.fr. Pour faire un don, c'est pareil, le même site, ou sinon il y a le site don.iuct-oncopole.fr. Sinon, vous tapez dans Google Oncopole de Toulouse, normalement vous retrouverez toutes les informations. Et nous sommes présents aussi sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter.
Et on n'oublie pas, merci beaucoup. Merci à vous aussi, auditeurs, d'être fidèles à cette émission Vivante Église. On se retrouve demain pour une nouvelle émission et nous vous proposerons une émission avec les jeunes de la Fraternité Saint-Pierre des Chartreux à Toulouse qui se préparent au JMJ. Si vous voulez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.